A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
Galère, nous sommes le mercredi 16 juin et vous êtes en compagnie de Françoise et d'Odile. Dominique se joindra à nous, nous espérons, la prochaine fois. On va commencer tout de suite par présenter le livre que nous voulons vous présenter. C'était La Ligue par Hélène Adam et François Coustal. Le livre est copieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a 800 pages, et on se passera donc, parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose, de donner les petites nouvelles que je prends sur le mille bâbord. Qui sont Hélène Adam et François Coustal? Ce sont des militants, comme vous pouvez bien vous en rendre compte en lisant le livre, des militants très anciens de la LCR et ont participé à sa fondation. Et actuellement, que sont-ils devenus? Pour François Coustal, on n'a pas de biographie. Il est dit que la biographie sera connue plus tard. C'était un grand ami de Krivine et il était avec lui délégué au Conseil de l'Europe pour l'international. Quant à Hélène Adam, c'est essentiellement une syndicaliste. Enfin, essentiellement, c'est quand même la Ligue qui est essentielle pour eux. Hein. Elle est déléguée de Solidaires, d'une part, au CHCT, au Comité pour l'hygiène et la sécurité, de 89 à 2000. Et elle a été ensuite employée, parce qu'elle est spécialiste de la communication internationale, au CES, maintenant avec un E, Comité Conseil économique et social et environnemental, CSE. Et on la voit donc maintenant reconvertie pour l'un dans l'Europe, on les voit donc reconvertis l'un pour l'Europe et l'autre au Conseil économique et social et environnemental. Voilà, c'est tout autre. Ce sont des gens qui sont devenus des personnalités, mais on voit qu'ils n'ont rien perdu de leur fougue d'autrefois. Et l'ouvrage qui m'est dédicacé, je viens de m'en apercevoir que j'avais un ouvrage dédicacé, ça m'a beaucoup ému, la page là. Donc,
par François Coustal.
On vous lit d'abord les deux.
Ah oui, les deux, en effet.
Et on va commencer par vous lire l'exergue qui vont vous montrer justement cette flamme qui ne s'est pas éteinte, qu'on le voit dans le livre et dans l'ensemble des choses qui vont vous être dites dans ce livre.
Ce sont les souvenirs de ces journées intenses où partout nos espoirs s'affichaient sur les murs, qui depuis 40 ans inspirent nos résistances, toujours au rendez-vous pour un autre futur. Ce n'était qu'un début, elle vient à la relève, et de mai 68, elle héritera demain. N'en déplaise à certains fossoyeurs de nos rêves, qui auraient tant voulu nous voir baisser le poing. Pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, les enfants les ramassent, n'effacent pas nos traces.
C'est de Jacques Tardy.
Ainsi, dans le milieu des années 1960, quand apparaissent les premiers noyaux de ce qui formera la Ligue, la France est encore dominée à gauche par le Parti communiste français. Les socialistes ont quasiment disparu, la CFDT vient tout juste de sortir du syndicalisme chrétien, la CGT est en étroite solidarité avec le PCF, lui-même soutien inconditionnel de la puissante URSS à peine déstalinisée. La guerre froide bat son plein et la peur d'un nouveau conflit mondial nucléaire est bien présente. Les luttes de libération nationale dans les pays du tiers-monde font craquer les coutures du monde colonialiste et impérialiste, tout en se heurtant à l'immobilisme des deux blocs. La jeunesse est majoritaire, jusque dans les pays développés, et résiste aux carcans imposés par des sociétés patriarcales et moralisatrices. La reconstruction de l'après-guerre et la réorganisation industrielle en cours voit un afflux d'ouvriers arriver dans des usines gigantesques, femmes, immigrés, anciens ruraux. Les universités se remplissent d'étudiants qui ont d'autres ambitions que celle de reproduire une société ressentie comme vieille, injuste, belliqueuse et inégalitaire. La fin de la Deuxième Guerre mondiale date de 20 ans et le Front populaire de 30 ans. Franco est encore au pouvoir en Espagne, Salazar au Portugal et le fascisme pointe son nez en Grèce. Les événements de l'année 1968 ne se résument pas à la mobilisation de la jeunesse et à la grève générale des mois de mai et juin en France. C'est dans le monde entier qu'une onde de choc se répercute, y compris dans les pays du glacis soviétique, avec le printemps de Prague. Les trois mondes, les pays capitalistes développés, les pays où règne la bureaucratie, à commencer par l'URSS et les pays de l'Est, les pays dominés du Sud, sont touchés de plein fouet par une succession de mouvements de masse qui font profondément marquer la vie sociale, syndicale, politique et même culturelle du monde.
Admirons au passage, c'est pas le style du roman qu'on vous lisait la semaine dernière, ce style un peu sévère mais magnifiquement clair et qui prend le pouls du monde tel qu'il est en n'oubliant rien et de façon extrêmement claire. Et ensuite ils vont nous présenter, je dis « ils » au pluriel, je ne sais pas parce que je n'ai pas entendu la conférence jusqu'au bout, si c'était partagé le travail, ou bien s'ils ont tout fait ensemble. Ils vont présenter les différentes parties du livre, qui fait pas moins de 6 parties. On voit qu'ils ont suivi le mouvement social et le mouvement politique et le mouvement international de très très près. Et ils vont égrener donc la présentation de chacune des 6 parties. Ça nous donne une idée de ce qu'est tout le livre. Ensuite, nous irons surtout regarder la fondation de la LCR et puis ce qui s'est passé en mai 68.
Je lis la seconde partie. Ou tu veux que je lise toutes les parties ?
Toutes les parties.
La première partie de l'ouvrage embrasse cette période charnière où de jeunes militants et militantes jetèrent les bases de ce qui deviendra la Ligue. Leurs expériences sont parfois déjà riches. Appartenance à la jeunesse chrétienne, puis au PC, porteurs de valises en soutien au FLN algérien, internationalistes à Cuba auprès de Fidel Castro et Duché, participants à la tricontinentale où des militants de nombreux pays partisans d'une troisième voie se rencontrent. Pour d'autres, c'est mai 68 et l'inventivité phénoménale de ces mobilisations qui les conduit sur le chemin de l'engagement. Ces périodes sont si fondatrices qu'elles ont bouleversé pour longtemps nombre de trajectoires individuelles, les plaçant résolument sur l'orbite de la lutte collective. Plongeant ses racines dans l'avant 68, la future Ligue s'immerge totalement dans le mouvement avant qu'elle ne soit officiellement fondée. La seconde partie fait revivre l'époque de l'impatience de la révolution imminente de mai 68, vécue comme une répétition générale. Le titre reprend la phrase qui symbolise cette période. L'histoire nous mord la nuque. L'embrasement des mouvements sociaux sur tous les terrains marque profondément cette période post-68arde, où de par le monde, des centaines de milliers de jeunes s'engagent en politique pour la révolution, dans la lutte contre le capitalisme, pour un socialisme débarrassé du stalinisme, contre toutes les formes d'oppression, pour les droits des femmes, des homosexuels, des immigrés. Nous sommes à l'offensive et sur tous les fronts. C'est aussi le temps des victoires, notamment celle du Vietnam contre l'agression militaire de la première puissance mondiale, les États-Unis. Des mobilisations internationales contre l'exécution de 6 militants basques antifranquistes, de la bataille de l'avortement en France et bien d'autres encore. La troisième partie est celle de l'attente et de l'espoir. Après ce tumulte qui traverse tous les continents, le monde et la société entrent dans une période plus complexe où se jouent des éléments de stabilisation, mais aussi les failles encore souterraines qui déstabiliseront bientôt à l'échelle internationale l'équilibre des deux blocs, dont la coexistence pacifique, entre guillemets, semblait avoir figé pour toujours le partage du monde et ses deux camps. En attendant l'arrivée de la gauche au pouvoir, la Ligue se construit, tente des paris audacieux, lance un quotidien, se dote d'une imprimerie, discute âprement de la stratégie de débordement dans un contexte international encore marqué par d'importants événements dans les trois sphères de la Révolution. Les dernières dictatures tombent en Europe, mais les États-Unis favorisent l'accession au pouvoir du dictateur Pinochet, qui renverse par les armes le gouverneur d'unité populaire de Salvador Allende au Chili. Avec les années 1980, qui composent la quatrième partie, arrivent les années Mitterrand. La gauche accède au pouvoir en France, comme en effet différé de 68, mais dans une période de reflux des mobilisations. Le paysage politique a fondamentalement évolué. Le Parti socialiste, reconstruit par François Mitterrand, est désormais dominant. Le Parti communiste entame un déclin irréversible. La CFDT, qui a absorbé une bonne partie des révoltes de 68, opère un recentrage réaliste. La division syndicale fait des ravages. Ce sont des années de désillusion. Malgré les premières mesures positives prises par le gouvernement Mauroy, le tournant de la rigueur du gouvernement suivant s'impose rapidement. Les ruptures espérées dans les partis traditionnels, PCF et PS, n'ont pas lieu. La Ligue doit réviser ses analyses et réfléchir sérieusement à la nouvelle période qui s'ouvre. À la fin de la décennie, lors de l'élection présidentielle de 1988, la première candidature unitaire voit le jour autour d'un ancien grand dirigeant du PCF, Pierre Juquin. Mais l'essai ne sera pas transformé alors que les premières grèves, avec l'émergence de coordination nationale, cheminots, infirmières, annonce le renouveau des luttes qui se développeront dans les années 1990. Au même moment, la situation internationale montre un nouveau visage avec la révolution islamiste en Iran ou les révélations des crimes commis par les Khmers rouges au Cambodge au nom de la révolution. L'URSS elle-même entre en crise après les différents développements de mouvements oppositionnels dans sa sphère d'influence. C'est le temps de Gorbatchev, de la perestroïka, restructuration, de la glasnost, transparence, et des grands bouleversements. Alors que se joue une dernière carte de l'affrontement Est-Ouest avec la course aux armements nucléaires et l'intervention soviétique en Afghanistan, une page est en train de se tourner. En 1989, le mur de Berlin tombe. La cinquième partie s'intitule « Nouvelle période, nouveau parti ». La Ligue disait alors « Nouveau programme ». Également. 68 est loin. La révolution russe de 1917 n'est plus la référence de l'émancipation contre le capitalisme, tant elle est entachée des crimes divers perpétrés en son nom. Des redéfinitions sont nécessaires et la génération de 68, encore engagée à l'extrême gauche, prend conscience des chemins longs et complexes qui seront nécessaires pour refonder l'espoir, d'abattre un jour ce système injuste qui ne fait que creuser dramatiquement les inégalités et porte la guerre en lui. Le nouvel ordre du monde voit les États-Unis reprendre l'offensive pour asseoir une domination offensive et guerrière sur fond de mondialisation de l'économie, toujours davantage sous l'emprise du pouvoir de la finance et des multinationales. Le monde que nous connaissons aujourd'hui se prépare à cette époque. La décennie sera également particulièrement fructueuse dans cette nouvelle situation pour les recompositions diverses. En France, le renouveau du mouvement syndical avec la création des SUD et de la FSU. À l'échelle mondiale, l'émergence du mouvement altermondialiste. La Ligue est partie prenante de tous les mouvements. La richesse de son expérience accumulée lui permet alors de servir de relais à de nouvelles générations, plus jeunes, qui n'ont pas connu les mouvements post-68. Le point culminant de ce renouveau du militantisme est atteint au début des années 2000, avec le succès des forums sociaux mondiaux, de la Marche mondiale des femmes et de la candidature d'Olivier Besancenot pour la LCR en 2002. La défense des services publics, la bataille pour une Europe solidaire, les luttes pour l'égalité, l'émancipation de tous, le partage des richesses, l'annulation des dettes qui étouffent le tiers-monde, tels sont les grands thèmes qui structurent les mobilisations de cette nouvelle génération. La sixième et dernière partie montre les évolutions importantes d'une organisation rajeunie dont la direction a été renouvelée et enfin largement féminisée et qui va de succès en succès à partir de 2002 et de l'impulsion donnée par l'émergence d'un nouveau porte-parole dont le profil correspond à ces mobilisations de la fin du siècle précédent. De 2002 à 2009 se déploient les dernières années de la LCR qui se dissout pour fonder un nouveau parti, le NPA. C'est une période riche en enseignements divers, qu'il s'agisse de la mobilisation unitaire contre le traité constitutionnel européen ou de l'élection présidentielle de 2007. Événement plus récent et mieux connu des lecteurs actuels. L'ouvrage se conclut par un chapitre transverse qui restitue quelques caractéristiques de ce qui fut la Culture League, la tradition de débat, ses sigles et logos, ses références théoriques ou ses universités d'été.
Et voilà comment il survole, mais le mot survole est presque péjoratif parce que c'est une présentation très fine de tout ce qui se passe. On voit la Ligue ballottée, il faut bien le dire, on est ballotté, et le public aussi, par tout ce qui se passe, mais ils tiennent bon. Et ils ont toujours le souci, un triple souci. Premièrement, ils sont un parti, ils disent ils sont un mouvement, mais ils sont un parti politique. Ils sont politiques. Deuxièmement, ils s'occupent du mouvement social, ils sont liés au mouvement social. Et troisième fil rouge, eh bien, c'est le fait qu'ils ne cessent, tout en agissant, de réfléchir sur la construction de l'avenir qui n'est pas encore là et du parti qui n'est pas encore là. Et qu'il faut faire. Pour le moment, c'est le NPA, c'est Ensemble, c'est tous les groupes d'extrême gauche qui sont. C'est l'occasion pour nous de dire est-ce que cela ressemble? Non, ressemble à ce qui se passait à ce moment-là. Non, la situation n'est pas la même, mais n'empêche que le parti est obligé de, d'une part, tenir sa ligne, d'autre part, s'adapter. Ce ne sera pas toujours très, très commode. Mais voyons ce qu'il appelle le roman de la Ligue.
Naturellement, notre ouvrage s'appuie sur d'autres travaux antérieurs, notamment un premier projet d'exposé sur l'histoire de la Ligue, élaboré sous l'intitulé « Repères sur l'histoire de la Ligue » au début des années 2000. Lorsqu'il est apparu nécessaire de fournir quelques rappels historiques à la jeune génération, qui participait au renouvellement de la Ligue. Cet exposé permet alors de présenter la Ligue aux nouveaux militants et aux nouvelles militantes, lors de réunions d'accueil ou de stages de formation. Progressivement, il est enrichi et étoffé. Puis il est repris sous diverses formes et par différents intervenants et intervenantes, notamment lors des stages de formation des responsables, mis en place tout au long de la dernière décennie d'existence de la Ligue, ou encore lors de séances de l'université d'été. Autre déclencheur, lors de la préparation de sa thèse de doctorat, Florence Joshua nous a longuement interviewés tous les deux à plusieurs reprises, notamment sur les points qui concernaient plus spécifiquement l'histoire de la Ligue et aussi sur les motivations de notre engagement, puisque tel était son sujet. Toujours est-il que ces sollicitations ont été l'occasion de rechercher dans nos souvenirs, de compulser nos documents, de revenir sur tous ces moments parfois assez anciens et peut-être aussi d'esquisser des bilans militants. Si l'on ajoute à cela le temps qui passe, la LCR s'est autodissoute il y a bientôt 10 ans, en février 2009, en prélude à la création du nouveau parti anticapitaliste NPA. Et les bouleversements récents du paysage politique de la gauche française, l'idée de mettre noir sur blanc ces éléments a fait son chemin. On peut d'ailleurs s'étonner que ce type de travail n'ait pas déjà été réalisé, même si l'on peut dénombrer plusieurs phases quant à la transmission de cette histoire. La version originelle des repères se présentait comme un plan plus ou moins détaillé dont la chair était donnée à l'oral par les intervenants. Mais par rapport aux décennies précédentes, c'était déjà un effort important de formalisation. Très longtemps, en effet, c'était la transmission orale qui avait prévalu et en général hors de réunions formelles. Au bistrot, au restaurant, en soirée, les anciens racontaient tel ou tel épisode de l'histoire de l'organisation. Une telle timidité de la Ligue vis-à-vis de sa propre histoire contrastait d'ailleurs avec sa propension à former ses militants sur l'histoire des autres partis, à commencer par celle du PCF. Sans doute, le refus viscéral de toute histoire officielle et plus ou moins édifiante est-il à l'origine de cette discrétion. La situation a commencé à changer avec la sortie de diverses publications de nature très différente concernant la Ligue. Ainsi, des responsables ou d'anciens responsables de la LCR, à vrai dire en nombre limité, on pense à Gérard Filoche, Daniel Ben Saïd, Alain Krivine et plus récemment Henri Weber, ont rédigé des sortes d'autobiographies ou de mémoires militantes. Et puis est arrivé le temps des travaux universitaires, la Ligue est devenue un sujet d'étude. Les chercheurs et les chercheuses s'attachant plus particulièrement à tel ou tel aspect de ses activités, à tel ou tel moment particulier de son histoire. On compte ainsi maintenant des dizaines de mémoires de maîtrise et de DEA relatifs à l'implantation de la Ligue dans certaines entreprises ou certaines villes, à sa presse, au rapport entre la Ligue et le féminisme, à l'évolution de ses conceptions en matière de démocratie et bien d'autres thèmes. Naturellement, lors de l'écriture de cet ouvrage, nous avons parcouru et parfois cité certaines de ses études, à commencer par les deux thèses de doctorat existantes et ayant fait l'objet d'une publication. La plus récente, celle de Florence Joshua, est une thèse de sociologie politique sur les motivations de l'engagement et leur transformation. La thèse de Jean-Paul Salles, elle, est une thèse d'histoire, mais qui s'arrête en 1981. Loin de nous l'idée de sous-estimer le tournant que représente pour la gauche et aussi pour la gauche radicale l'accession de l'union de la gauche aux responsabilités. Pour autant, la Ligue ne fut pas seulement un lieu d'apprentissage avant de passer à autre chose. Beaucoup de militants et de militantes ont continué le combat pour encore quelques décennies.
On remarque qu'il y a un nom qui est cité deux fois, c'est celui de Florence Joshua, et on voit l'importance de cette jeune femme, et dont on connaît le nom de famille à Marseille, dans le travail qu'ils ont fait, en plus d'autres thèses universitaires. Et visiblement, là, on peut comparer ce qui s'est passé pour la Ligue avec le capitalisme, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec la Grèce et Rome qui l'a vaincu. La Grèce a apprivoisé son sauvage vainqueur, c'est-à-dire que ce qui est sorti, c'est une culture. Et c'est ce qui montre bien là, mais il n'y a pas que la culture. On va bien voir qu'il y a tout autre chose dans ce roman de la Ligue. Et je reviens sur les trois fils rouges, mouvements sociaux, débat sur la conception du parti et le fait qu'on est politique. La première partie va nous montrer comment se construit la LCR, c'est la première partie du livre, peut-être qu'on va vous faire entendre un peu de musique.
Je m'en souviens très bien, j'avais presque ton âge, mon père parlait souvent d'une drôle de guerre qui le fit prisonnier. Au bout d'un long voyage, il le garda 4 ans éloigné de ma mère. Sur ces années perdues, je voulais tout savoir sur ces plans d'évasion qui avaient tourné court. J'aurais dû lui dire d'en écrire les mémoires, de l'heure de la débâcle à celle du retour. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs par par-delà les frontières. Dans les années 60, résonna de nouveau le mot libération. Des maquis du Vietnam, aux rues effervescentes d'un vieux quartier latin en pleine insurrection. Occupèrent les usines et ce fut la plus grande grève de notre histoire. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, qu'un jour en passant ces petits cailloux blancs nous enfants les ramassent. RTF en lutte, halte à la répression, tous unis camarades, les métallos tiendront. Notre arme c'est la grève, et Renaud Flin vaincra. Travailleurs, étudiants, continuons le combat, dénonçant l'injustice. Les salaires de misère, dressant des barricades comme les communards. Nous voulions inventer un monde solidaire et nous avions raison, nous les 68 ans. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans. Un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, ce sont les souvenirs de ces journées intenses où partout nos espoirs s'affichaient sur les murs. Depuis 40 ans, inspire nos résistants, toujours au rendez-vous pour un autre futur. Ce n'était qu'un début, elle vient la relève, et de mai 68, elle héritera demain, n'en déplaise à certains. De nos rêves qui auraient tant voulu nous voir baisser le poing. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, qu'un jour en passant ces petits cailloux blancs nous enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces.
On commence la deuxième partie du livre avec le développement et de la Ligue qui prépare la LCR. Et un courant lourd se développe, c'est le courant internationaliste.
Nous nous garderons bien de faire ici l'histoire controversée du courant trotskiste et de la 4e internationale. On se contentera de rappeler que ce courant politique est né de la lutte contre la dégénérescence stalinienne de l'URSS et à sa suite de l'ensemble du mouvement communiste. Parmi ses principales délimitations politiques, il faut noter la critique de la bureaucratie, l'opposition à l'orientation réformiste d'alliance avec des forces bourgeoises, la lutte pour l'unité du mouvement ouvrier, l'internationalisme, la défense de l'actualité de la révolution socialiste, y compris dans les pays soumis à la domination impérialiste. Toujours est-il que, fondée dans l'urgence par Trotsky en septembre 1938, la quatrième internationale est restée, des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1960, un courant extrêmement minoritaire et même marginal, sans jamais s'y résigner. Au contraire, sensible à l'air du temps, ce courant a essaimé par divers biais de peser sur le cours des choses, bien au-delà de son poids réel. Sa préoccupation constante a été de se lier au mouvement réel des masses, cela passait par la prise en compte des processus radicaux, voire révolutionnaires, qui se déroulaient, même lorsque les forces politiques qui les animaient étaient idéologiquement fort éloignées du trotskisme. En 1948, lorsque survient la rupture entre l'URSS de Staline et la Yougoslavie de Tito, la quatrième internationale choisit le camp yougoslave, considérant qu'il s'agit là d'une première émancipation vis-à-vis du stalinisme. D'autant que les communistes yougoslaves critiquent le verticalisme soviétique et se réfèrent à l'autogestion. Pour les trotskistes, le choix en faveur de Tito n'est pas seulement une position politique générale, sans implication concrète. Des meetings sont organisés pour dire la vérité sur la Yougoslavie. Ces réunions publiques sont attaquées par les gros bras du PCF, qui a repris à son compte sans nuance la position soviétique. Tito et ses soutiens sont des nationalistes, voire des fascistes. Surtout, le concert avec des personnalités de la nouvelle gauche de l'époque, le Rassemblement démocratique révolutionnaire, RDR, animé par David Rousset, l'équipe des temps modernes autour de Jean-Paul Sartre, Claude Bourdet, le mouvement des auberges de jeunesse, les trotskistes français vont organiser des brigades internationales de reconstruction. Il s'agit de se rendre sur le terrain, en Yougoslavie, afin de participer aux tâches matérielles de reconstruction après le départ des conseillers soviétiques, de multiplier les contacts avec les communistes yougoslaves, d'étudier la manière dont ils construisent la société nouvelle et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, et de retour en France, de témoigner de la réalité yougoslave. Ce mouvement de soutien s'organise au-delà des frontières hexagonales. Durant l'été 1950, près de 2 milliers de jeunes se rendront en Yougoslavie, parmi eux des personnalités que l'on recroisera plus tard, Gilbert Marquis, Henri Benoît, Jean-René Chauvin, Denis Berger. Et maintenant, tu nous parles de l'entrisme.
Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une tendance lourde, mais la tendance lourde, c'était pas là. C'était l'internationalisme. Elle n'est pas lourde par son nom, ou pas du tout. Ils ont toujours été minoritaires, mais ils ont beaucoup compté, si j'ai bien compris. Donc je retire l'adjectif que j'avais dit en disant que c'était une tendance lourde. Reste que l'entrisme est une façon de pratiquer l'internationalisme, c'est-à-dire de placer le communisme dans la tête de ceux qui sont au pouvoir, soit dans les pays du glacis soviétique, soit dans les pays qui sont tenus par la tricontinentale, c'est-à-dire les pays relais du capitalisme, les pays capitalisme du Nord et les pays capitalisme du tiers-monde.
Une partie significative du mouvement refuse absolument cette nouvelle orientation, considérant qu'elle se traduit par la renonciation à construire des organisations indépendantes alternatives au parti stalinien, voire qu'elle constitue une forme de capitulation vis-à-vis du stalinisme. Au sein de la section française, l'opposition à l'orientation de Michel Raptis, animée par Marcel Bleibtreux et Michel Lequen, est majoritaire. La discussion débouche sur une scission qui va structurer durablement le paysage du trotskisme au niveau international et hexagonal. En France, il va donc exister deux partis communistes internationalistes, PCI. Au sein du PCI, hostile à l'entrisme au sein du Parti communiste, Pierre Boussel, Lambert, écarte rapidement Marcel Bleibtreux et Michel Lequen et jette les bases du courant lambertiste, connu sous les sigles successifs d'OCI, Organisation communiste internationaliste, de PCI à nouveau, puis de Parti des travailleurs, PT, et enfin de POI, Parti ouvrier indépendant. L'autre PCI, favorable à l'entrisme et animé par Pierre Franck, participera en 1969 à la fondation de la Ligue communiste. En fait, on voit bien que l'entrisme, alors décidé par une majorité au niveau international, relève d'une double lecture. Un pronostic pour le moins hasardeux sur la dynamique de la situation mondiale et l'évolution du mouvement stalinien. Une volonté de se lier à certains secteurs d'un mouvement ouvrier, alors soumis à l'hégémonie stalinienne. L'histoire a absolument démenti le pronostic. La situation d'affrontement entre l'Est et l'Ouest n'a pas débouché, on le sait, sur la guerre. De plus, globalement, les partis communistes n'ont pas connu de radicalisation à gauche, mais plutôt une évolution droitière. Pour autant, en France, l'entrisme n'a pas été totalement sans effet, comme on aura l'occasion de le voir à travers la crise de l'Union des étudiants communistes et la création de la jeunesse communiste révolutionnaire. Heureusement, deux événements vont permettre au courant marxiste révolutionnaire de sortir de cet enfermement, de se projeter et d'agir malgré des forces extrêmement limitées, la lutte pour l'indépendance algérienne, le soutien à la révolution cubaine.
Voilà, deux thèmes qui vont être développés, parce que la quatrième internationale a sans hésitation, dès le début, soutenu l'indépendance de l'Algérie et soutenu les partis qui se battaient pour l'indépendance et les militants qui, en France, se sont soulevés aussi pour soutenir ceux qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie.
Cette prise de position va bien au-delà d'une simple adhésion au devoir anticolonialiste, de rédaction d'articles, de discours à la tribune, de meetings ou même de manifestations. Activités qui, par ailleurs, ne sont pas de tout repos. Même si les pouvoirs publics français refusent de parler de guerre, c'est bien de cela qu'il s'agit, et la répression, sous couvert d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, n'épargne pas ceux qui aident les Algériens. En fait, pendant quelques années en France, comme plus généralement en Europe, toutes les activités de la 4e internationale se focalisent sur l'aide concrète aux combattants algériens. En France, cette aide va prendre des formes multiples, en liaison avec la Fédération de France du FLN. Les militants français impriment les journaux clandestins, qu'il s'agisse de ceux du FLN ou de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA. Ils s'occupent de l'hébergement des militants algériens recherchés par la police et fabriquent pour eux de faux papiers. Ils effectuent même des missions de repérage devant plusieurs prisons françaises en prévision de l'organisation d'évasion de militants emprisonnés. Ils aident à convoyer les sommes recueillies par le FLN auprès de la communauté algérienne en France et participent ainsi à l'activité des porteurs de valises aux côtés d'autres militants anticolonialistes venus de divers horizons, Nouvelle Gauche, dissidents communistes, chrétiens en voie de radicalisation. Autour de personnalités engagées dans la lutte contre le colonialisme français, Francis Janson, Henri Curiel, se mettent en place divers réseaux semi-clandestins ou franchement clandestins. Parmi les différents groupes impliqués dans le soutien aux combattants algériens, la voie communiste joue un rôle important, notamment en associant des militants marxistes révolutionnaires et des membres du PCF en désaccord avec ce parti sur la question algérienne. La voie communiste est principalement animée par Denis Berger. L'un des réseaux de soutien connaît un succès important, Jeune Résistance. Aux épisodes des activités anticolonialistes, des trotskistes, la lutte contre les partisans de l'Algérie française et les soutiens de l'organisation de l'armée secrète, OAS, cet engagement est d'autant plus fort qu'il allie deux ressorts puissants constitutifs de l'ADN trotskiste, l'anticolonialisme et l'antifascisme. Il débouche sur la création du Front universitaire antifasciste, FUA, où l'on retrouve une grande partie des animateurs de la gauche de l'Union des étudiants communistes, Alain Criville, Pierre Goldman, Marie-Noël Thibault. Le FUA se donne comme objectif d'empêcher toute apparition au quartier latin des partisans de l'Algérie française et de protéger les activités progressistes, notamment la librairie Maspero. Tout cela est assez mal vu par la direction du PCF, mais ce genre d'intervention politique n'est pas totalement isolé. Autour de Jean-Pierre Vizier, Jean-Paul Sartre, Laurent Schwartz et Claude Bourdet, le milieu universitaire se mobilise également contre le fascisme. Parallèlement à la montée en puissance du FUA au quartier latin, le PSU met en place des groupes d'autodéfense, les groupes d'action et de résistance, GAR.
On voit donc que là, ils prennent pas parti pour ce qui est de l'intérieur de l'Algérie, et ils ont bien raison, parce qu'avec dans les maquis algériens, des divisions terribles entre le MNA, Messaliad, et eux, c'est le FLN et le GTA, et pas autre chose. Et en revanche, ils organisent un soutien qui est un soutien très concret à la lutte algérienne, notamment le fameux réseau des porteurs de valises. Mais il n'y a pas que l'Algérie qui va motiver toute une génération, notamment la jeunesse, il y a aussi Cuba.
Avec la révolution cubaine, de bons esprits ont ironisé sur la fascination qu'ont exercé la révolution cubaine et surtout le Che sur la jeunesse des pays capitalistes développés. Pourtant, quoi de plus naturel? Si au milieu et à la fin des années 1960, à New York comme à Paris, à Berlin ou à Rome, des milliers de jeunes gens se seront connus dans les figures des Barbudos, c'est d'abord et avant tout parce que cette lutte de libération nationale et sociale tranchait avec la médiocrité du champ politique à gauche. Elle était aux antipodes tant que d'une social-démocratie qui avait renoncé à toute transformation sociale radicale, que de l'insondable tristesse qui suintait de l'URSS et des pays de l'Est européens. Le socialisme et la liberté, la révolution et la joie de vivre, voilà l'image que renvoyait alors la fête cubaine. Ce n'est que plus tard, à la fin de la décennie des années 60, qu'allait déferler à travers le monde le culte du Che, les images christiques de sa dépouille, le romantisme révolutionnaire. Mais pour le courant marxiste révolutionnaire, la rencontre avec la révolution cubaine et le castrisme s'est opérée très rapidement au début du processus, au commencement de la décennie des années 60, avec la prise du pouvoir et les premières décisions prises. Cette convergence s'est nourrie principalement de deux phénomènes. D'abord, la reconnaissance que Cuba venait de connaître une authentique révolution, un processus de révolution permanente, une révolution socialiste. Le second phénomène a été la tenue à Cuba dans les années 1963 et 1964 d'un vaste débat sur la construction du socialisme précisément. Lorsque Fidel et le mouvement du 26 juillet prennent le pouvoir le 1er janvier 1959, le contenu de leur mouvement révolutionnaire est essentiellement celui d'une lutte pour le rétablissement de la démocratie contre la dictature de Batista et pour l'indépendance nationale contre la mainmise des États-Unis sur Cuba. Il y a bien sûr, comme dans toute révolution populaire, une dimension sociale d'amélioration des conditions de vie des plus exploités et des plus opprimés, notamment à travers les projets de réforme agraire. Mais la référence des révolutionnaires cubains au socialisme est pour le moins discrète. Au sein même de la direction cubaine, seul Ernesto Guevara se réclame vraiment du marxisme. Mais, après une courte période d'expectative, les États-Unis vont prendre des mesures de rétorsion, notamment la suspension des achats de sucre, en réponse à la mise en œuvre des premières réformes du nouveau pouvoir cubain. La direction cubaine répond alors en approfondissant ces mesures, à commencer par la nationalisation des multinationales pétrolières étrangères, Texaco, Esso et Shell, en juin 1960. En juillet 1960, 600 entreprises américaines sont mises sous contrôle de l'État cubain. L'étape suivante sera en octobre la nationalisation de 382 entreprises privées cubaines, banques, raffineries, distilleries, etc. et de 166 entreprises américaines, dont Coca-Cola, Remington et Westinghouse. Enfin, en avril 1961, Castro parle pour la première fois de la révolution cubaine comme d'une révolution socialiste. En pratique, le nouveau régime prend alors de nombreuses mesures politiques et sociale pour éradiquer la misère et développer un système de santé accessible et gratuit. Il entreprend des campagnes massives d'alphabétisation et l'accès à la culture. Ces transformations sociales radicales construisent une forte cohésion sociale et un attachement durable du peuple cubain au castrisme. Dans la grille d'analyse marxiste-révolutionnaire, la révolution cubaine et sa dynamique est typiquement un phénomène de révolution permanente. Elle commence comme une révolution démocratique anti-impérialiste, mais face à la réaction de la bourgeoisie cubaine et surtout de l'impérialisme des États-Unis, la direction révolutionnaire est confrontée au dilemme conciliation et capitulation ou approfondissement de la révolution dans un sens socialiste. Dans de nombreux pays dominés, notamment lors des processus de décolonisation, les directions politiques des mouvements populaires ont choisi la voie de la conciliation. Mais la direction cubaine, elle, a choisi la seconde voie, l'approfondissement de la révolution, la rupture avec l'impérialisme, la transcroissance, de la révolution démocratique et anti-impérialiste en révolution socialiste. Telle est la base du soutien de la 4e internationale à la révolution cubaine et de son implication ultérieure dans les débats qui vont traverser tant la révolution cubaine que l'ensemble de la gauche latino-américaine.
Voilà donc le contexte qui est très important de la construction de l'ASR. On voit qu'insensiblement on est passé de l'ASR ou sa construction. Le congrès date de 69 et l'analyse du trotskisme et la révolution permanente, c'est un concept trotskiste, hein, c'est sûr. Et donc elle s'amuse, c'est un côté amusant du livre qui est sérieux par ailleurs, très sérieux. C'est ce qu'on appelle le
trotsko-guevarisme.
Voilà, guevarisme.
Organisation de jeunes, mais pas organisation de jeunesse, dépendant d'un parti adulte, la JCR est donc à bien des égards une construction originale sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan des références idéologiques. De nombreux observateurs la qualifient d'organisation trotsko-guevariste. La JCR ne revendique pas cette étiquette, mais ne s'en démarque pas non plus. Dans le programme de la JCR, il y a bien sûr de nombreux emprunts à l'héritage trotskiste, référence au communisme et à la révolution russe, anti-stalinisme, internationalisme comme élément programmatique central. Nombre d'éléments de ce programme révèlent aussi une assez grande proximité avec les analyses qui sont celles, par exemple, d'Ernest Mandel sur les transformations du capitalisme ou encore les orientations politiques de la 4e internationale. Néanmoins, l'existence même de la JCR constitue une rupture avec l'entrisme qui demeure la stratégie politique de l'organisation internationale. Mais il est également vrai que les références au Che sont omniprésentes. La JCR s'identifie à ce qu'elle considère comme une interprétation guévariste de la théorie de la révolution permanente. Début 1967, un an après sa création, l'une des premières activités éditoriales de la JCR sera la publication, en affiches et en brochures, du message adressé par Guevara à la conférence de l'Organisation latino-américaine de solidarité, OLAS. Écrit alors qu'il était déjà engagé dans la guérilla en Bolivie, le message explique pourquoi la guerre du Vietnam constitue le cœur de la situation mondiale. Sans plus de responsabilité à la tête de l'État cubain, le Che n'hésite plus à critiquer durement l'URSS et la Chine. Mais ils sont aussi coupables ceux qui, à l'heure de la décision, ont hésité à faire du Vietnam une partie inviolable du territoire socialiste. Alors, dans ces circonstances, la meilleure aide possible à fournir au peuple vietnamien, c'est d'engager la lutte ici et maintenant. D'où l'appel du Che. Comme nous pourrions regarder l'avenir proche et lumineux, si deux, trois, plusieurs Vietnams fleurissaient sur la surface du globe, avec leur part de morts et d'immenses tragédies, avec leur héroïsme quotidien, avec leurs coups répétés à l'impérialisme, avec pour celui-ci l'obligation de disperser ses forces sous les assauts de la haine croissante des peuples du monde.
C'est pas beau, ça, c'est pas beau. Il nous reste à envisager autre chose. On n'en a pas parlé encore, mais il faut bien. C'est très utile, c'est mai 68. Vous allez voir que le mai 68 de l'ASR, c'est pas celui qu'on nous a présenté à la télévision il y a quelques semaines, les enfants de mai, ni c'est pas celui que les médias nous ont laissé en souvenir.
Traditionnellement, on fait commencer l'histoire de mai 68 à la création du mouvement du 22 mars. Le 20 mars, à l'issue d'une action organisée par le Comité Vietnam National, CVN, et visant une succursale de l'American Express proche de la place de l'Opéra, Xavier Langlade, responsable du service d'ordre de la JCR, est arrêté. Immédiatement, la riposte s'organise, notamment à la faculté de Nanterre, avec l'occupation de la grande salle du conseil de l'université et l'impulsion d'une série de réunions et de meetings qui vont s'échelonner tout au long du mois d'avril. Les animateurs de cette mobilisation décide de se rassembler, non sur convergences idéologiques, mais à partir d'un accord pratique sur l'action, ce qu'il faut faire concrètement. Du coup, on y retrouve essentiellement des militants libertaires comme Daniel Cohn-Bendit et Jean-Pierre Duteuil, des personnalités non encartées comme Serge Julie ou encore Daniel Ben Saïd, qui décrira le mouvement comme reposant sur le consensus des groupes d'avant-garde non sectaires, prêts à voir l'intérêt du mouvement avant le leur propre. L'expérience du mouvement du 22 mars en inspirera d'autres. Ainsi, à Toulouse, se crée le mouvement du 25 avril où la JCR est bien présente. Finalement, à Nanterre, le doyen décide fin avril de fermer la faculté. Le mouvement se déplace donc vers la Sorbonne. Celle-ci est évacuée par la police le 3 mai, en déclenchant une série de manifestations à Paris et dans les principales villes universitaires. À travers la structuration des comités d'action lycéens, CAL, la JCR est également au cœur de la radicalisation lycéenne qui commence à se développer au cœur des grandes villes. À Paris, les grands rassemblements étudiants de fin d'après-midi place d'Enfer-Rochereau sont précédés systématiquement de cortèges lycéens parcourant les rues de la capitale. Si la révolte étudiante est nouvelle, par son ampleur et ses formes, elle n'est pas totalement inédite. Par contre, le départ en grève des lycées qui rejoignent le mouvement général dès le 6 mai est totalement imprévu et représente une grande première. L'organisation remarquable de ces jeunes de 15 à 18 ans et leur politisation très rapide au feu de l'action et de la grève générale, l'occupation des lycées, les immenses assemblées générales, seules habilitées à décider, les commissions de travail, la participation aux manifestations, notamment à Paris, sont autant d'éléments qui feront de cette génération le fer de lance de tous les mouvements de masse qui suivront l'année 68. Dans l'Humanité, Georges Marchais, tout en finesse, écrit « Comme toujours, lorsque progresse l'union des forces ouvrières et démocratiques, les groupuscules gauchistes s'agitent dans tous les milieux. » avant de dénoncer l'anarchiste allemand Cohn-Bendit. Ses prises de position hostiles du Parti communiste vont provoquer son divorce durable avec la jeunesse. Les 6 et 7 mai, les manifestations étudiantes et lycéennes se poursuivent et sortent même du quartier latin pour une incursion sur les Champs-Élysées. Le 9 mai, la JCR avait prévu de longue date un meeting à la Mutualité avec Ernest Mandel, et des représentants des mouvements étudiants européens, Belgique, Hollande, Italie, Espagne, Allemagne, sur un thème finalement prémonitoire, la jeunesse de la révolte à la révolution. Sur suggestion de Daniel Cohn-Bendit, la JCR décide de l'ouvrir au mouvement et aux principales organisations d'extrême gauche. Les prestations des représentants de la Fédération des étudiants révolutionnaires, FER, Lambertiste, et de l'UJCML, confirment leur incompréhension de la situation et leur extériorité au mouvement. Par contre, les autres intervenants convergent sur la nécessité de s'intégrer au mouvement, de le structurer à la base et de mener à son terme l'épreuve de force avec le pouvoir. Une direction de fait du mouvement se met en place. Elle comprend le mouvement du 22 mars, le mouvement d'action universitaire MAU, la JCR, les étudiants socialistes unifiés, le bureau national de l'UNEF, le SNESUP. C'est elle qui sera aux commandes le lendemain lors de la fameuse nuit des barricades. Le 10 mai au soir, le cortège de fin d'après-midi désormais quotidien s'installe et entend rester sur place jusqu'à la réouverture de la Sorbonne. C'est l'occupation du quartier latin qui bientôt se couvre de barricades. Le procédé est certes symbolique, mais sa charge émotionnelle et mémorielle est puissante. Le mouvement étudiant de ce printemps 68 prend sa place dans la longue cohorte des révoltes populaires et retrouve naturellement à travers les barricades leurs moyens d'action historiques. Une évidence politique que ne comprennent décidément ni la direction de l'UJCML, ni celle de l'AJS-OCI, Lambertiste, qui dénonce les gauchistes irresponsables qui mènent le mouvement à la boucherie. La boucherie n'aura pas lieu, même si la répression policière est sévère et d'ailleurs va provoquer la sympathie de l'opinion publique, restée jusque-là dans l'expectative pour les étudiants. Ensuite, les choses s'accélèrent. Le 13 mai, date symbolique, les confédérations syndicales organisent une journée de grève et de mobilisation contre la répression subie par les étudiants. Les manifestations remportent un succès monstre, notamment à Paris, et prennent une tonalité politique marquée, le slogan le plus repris étant « 10 ans, ça suffit ». Pour la JCR, c'est la confirmation de l'orientation mise en œuvre par le mouvement étudiant, C'est par son action et ses formes d'action en rupture qu'il a réussi à gagner la sympathie de l'opinion populaire et à mettre dans la rue le mouvement ouvrier. Le gouvernement décide la réouverture de la Sorbonne qui est immédiatement occupée. Des commissions de réflexion sur l'avenir de l'université et de la société se mettent en place. Chaque courant ou tendance du mouvement installe son stand dans la cour de la Sorbonne. Pendant tout le mois de mai, la JCR tiendra un meeting quotidien pour faire le point sur le mouvement, développer les analyses de la situation et débattre des perspectives. Mais bien sûr, la conséquence la plus importante des manifestations du 13 mai, où le mouvement populaire a fait l'expérience de sa massivité. C'est bizarre ce mot. A fait l'expérience de sa massivité et de sa force, et l'irruption de la grève générale et des occupations d'entreprises. Il faut noter ici un effet génération qui rapproche l'ensemble d'une classe d'âge déjà réunie par les références de solidarité internationaliste et certaines références culturelles, dont la musique d'ailleurs, bien au-delà des frontières. Ce sont les jeunes ouvriers qui sont les premiers à déclencher des grèves, immédiatement totales et avec occupation. Ils seront aussi les derniers à accepter de reprendre le travail.
C'est ainsi que va se fonder la SCR. Certes, le mouvement donné n'y est pas étranger, mais voyons comment il a été présenté d'une façon très très stricte avec ce qui est prévu, les manifestations. On aurait dit que c'est réglé par un pendule. Et en fait, c'était pas ça du tout. Et on salue cette fondation de la SCR.
Automne 68, avril 69. Par le froid et la famine, dans les villes et dans les champs, à l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans. Pour reprendre le rivage, notre paix, c'est leur conquête, car en 1917, sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent les soviets. Ce premier congrès fut précédé par plusieurs mois de débats préparatoires et contradictoires, et se conclut en avril 1969 par la fondation de la Ligue communiste. Quitte à énoncer une lapalissade, il faut bien considérer que ce congrès de fondation fut réellement un moment fondateur. Au sens où il allait façonner la Ligue, ses modalités d'intervention politique et ses débats pour les années, les décennies à venir. Même si naturellement une grande partie des présupposés, des analyses et des orientations de cette époque allaient progressivement être remises en cause. Il faudra beaucoup de temps à la Ligue pour se dégager pratiquement et théoriquement de l'avant-gardisme qui a présidé à sa naissance. Refermé. Pour comprendre la dynamique du débat de fondation, il faut d'abord revenir sur ce qu'a été la rentrée 68 et l'état d'esprit qui était alors celui non seulement de l'extrême-gauche revigorée, mais aussi de centaines de milliers de personnes, tant dans la jeunesse que dans le salariat. C'est en effet à une très large échelle que se sont développés et incrustés l'espoir d'un rebondissement, de la montée révolutionnaire et la conviction que mai n'était pas fini, que mai ne pouvait pas se finir comme ça, qu'il fallait remettre ça. Mais pour puissante qu'elle ait été, cette espérance ne réglait pas le problème. Comment ? Car l'autre caractéristique de la situation en septembre 1968 est le nombre des interrogations sur la manière de faire revivre mai et la diversité des réponses à ces interrogations. Disons-le d'emblée, les groupes d'extrême gauche vont apporter chacun leur réponse. Ils vont le faire non seulement en ordre dispersé, mais aussi de manière complètement concurrente. Et chaque grande et même plus petite tendance du mouvement est alors absolument persuadée de détenir seule la bonne analyse et la bonne orientation. Pour définir leur orientation, toutes les organisations révolutionnaires partent alors évidemment de mai 68, du soulèvement de la jeunesse et de la grève ouvrière. Mais leur rapport à l'événement et l'ampleur des mutations qu'il implique sont extrêmement différenciés. Car en mai et juin 68, toutes les organisations d'extrême gauche ne se sont pas positionnées de la même manière. Et surtout, elles n'en tirent pas les mêmes conclusions pour l'avenir. Pour simplifier, on peut les classer en trois grandes catégories. Celles qui sont véritablement nées en 68, celles qui existaient avant et ont finalement pour l'essentiel persévéré dans leur être, et enfin, celles qui existaient avant, mais que mai a transformé en profondeur. La première catégorie est finalement assez peu nombreuse. les cahiers de mai, vive la révolution, certains courants libertaires sans doute, et à l'existence assez fugace. Dans la seconde catégorie, par l'invariance de leurs références idéologiques et la permanence de leur fonctionnement, on trouve le courant lambertiste, organisation trotskiste, puis à nouveau OCI. Voie ouvrière qui devient lutte ouvrière, ainsi que les différents groupes et partis maoïstes, ML, marxistes-léninistes, orthodoxes. Dans la troisième catégorie, par ailleurs hétérogène, on peut classer le Parti Socialiste Unifié, PSU, une partie du courant maoïste et la Ligue en gestation. Le PSU est né en 1960 d'une scission de gauche de la social-démocratie et du combat pour l'indépendance algérienne. Il a occupé en tant que parti et plus encore par ses relais syndicaux, UNEF, SNESUP, CFDT, une place importante dans le mouvement de mai, dont il a su reprendre en charge les aspirations, notamment à travers les thèmes du contrôle populaire et de l'autogestion. Doté d'une plus grande crédibilité que les groupes gauchistes, il connaît une vague d'adhésion et un déplacement de son centre de gravité vers la gauche. C'est donc pour le PSU une transformation en profondeur dans la foulée de mai 68. Totalement dépassé par le mouvement réel, notamment lors de la nuit des barricades, l'UJCML n'a pas très bien passé l'épreuve de mai. Le bilan de ces cafouillages politiques donne lieu à des débats internes tendus et à des autocritiques. Finalement, alors que quelques animateurs de mai, Serge Julli et surtout Alain Gesmard, se rapprochent, Benny Lévy va impulser une réorientation globale au Mao, c'est la création de la gauche prolétarienne.
Il faut admirer la précision que Cali montre comment mai 68 a été revécu, refait et réorienté vers l'avenir de façon si différente. On peut répondre à la question que je posais. Maintenant, qu'en est-il ? C'est vrai que la société a basculé dans la droite et on voit maintenant que l'émiettement des partis de gauche fait peine parce qu'ils ne veulent pas, pour des raisons d'ego, beaucoup s'allier pour avoir un résultat électoral qui ne soit pas catastrophique.
On peut conclure par une petite chanson ?
Oui.
Voilà. À la semaine prochaine après.
Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas, même si le normal, c'est l'infinie souffrance, des enfants décharnés, aux yeux vidés sans joie, même si le correct se nomme indifférence, même s'il parle fort, ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver, et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, oh, parfums de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui, les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas.
les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres et l'on met chapeau bas. Devant les renégats, l'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est plus qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines. Cependant qu'au lointain ricane l'argent roi, je me bats avec mes pauvres mots qui sont mes seules armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas, je me bats. Si longtemps que j'aurai la force, qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite et qui bat. Et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,